Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment désolé d'être arrivé en retard tout à l'heure. J'ai une journée. Ouais, une journée assez speed. Donc, je m'appelle Gaël. Je suis un responsable sur une implantation d'église au Val d'Europe. Vous savez, c'est le centre du monde. Pour ceux qui n'y croient pas, il y a juste à venir à aller à la gare du Val d'Europe, à être là et à regarder les flux de personnes qui sortent du train et les flux de personnes qui entrent, toutes ces personnes qui sont attirées, happées par le centre commercial, ces autres personnes qui sont tirées par la Valley Village qui est juste derrière, ou alors aller à Disneyland et voir toutes ces personnes qui arrivent de partout dans le monde. Et c'est de là même en fait qu'est venue l'idée d'implanter une église au Val d'Europe. Philip Moore, que certaines personnes connaissent, Clément certainement. Philip, il nous raconte toujours c'était ça. Et il y était un jour, un dimanche, et il a vu toutes ces personnes qui allaient à Disney pour voir Mickey. Et il s'est dit, ce serait tellement cool qu'il y ait autant de personnes qui affluent, mais pour aller rencontrer Jésus. Même si Mickey, c'est après, mais déjà, venir rencontrer Jésus d'abord le matin, ce serait une bonne chose. Du coup, on avance bien, très reconnaissant à Dieu pour ce qui se fait au Val d'Europe. Il y a des personnes qui arrivent, qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile. Ou du moins, qui s'en moquaient complètement, qui arrivent, qui entendent la parole de Dieu, qui sont touchés, qui reviennent, qui se font baptiser et qui sont suivis et qui ouvrent leur maison pour que leur maison devienne des groupes de maisons, des lieux où le feu ou la flamme de l'évangile peut commencer à briller pour que dans ce quartier-là, et ben d'autres personnes connaissent l'évangile. Je n'ai pas demandé à Clément, j'ai combien de temps en fait? Ah mince, ça va être très compliqué. Je sais pas ce que j'aurais à dire. Je vais peut-être lire toute la Bible. Ça, c'est. Je pense que je finirai avant. Je vais juste prier encore. Et si vous voulez prier avec moi, notre Dieu, notre Roi, Père éternel, on s'incline devant toi ce soir et. Je veux te remercier, Père, pour ce grand amour que tu nous as manifesté à la croix. Cet amour qui a des dimensions immesurables, Seigneur. Et on veut te dire merci, Père, pour nos cœurs que tu embrases. Et cette expression que j'entends ce soir, que tu nous enflammes, Seigneur, dans les coins et les recoins de notre être, que Christ, que Dieu habite pleinement en nous par la foi, que Christ est sa résidence dans nos cœurs, c'est une telle grâce. Merci Seigneur que nous qui étions sans Dieu, tu as accepté d'être notre Dieu. Nous qui n'avions pas de promesses, pas d'héritage, Père, les promesses que tu as faites à Abraham sont les nôtres aujourd'hui en Christ. Nous Seigneur qui étions morts par nos fautes et par nos péchés, dans ta bonté absolue, Seigneur, tu nous as sauvés par la grâce en Jésus-Christ. Merci Seigneur que tu as détruit les murs de séparation, l'inimitié. Et aujourd'hui tu bâtis une église unie, un seul corps dans le Christ ton bien-aimé. Merci Seigneur parce que toutes ces choses s'appliquent à nous, qui nous qui ne méritions rien, rien de plus que la colère de Dieu. On est reconnaissant pour ce que tu fais pour nos pères. Je veux te dire merci pour ce temps maintenant et Seigneur, je suis convaincu que c'est un moment où il y a une guerre de gloire. Une guerre de gloire dans mon cœur qui suis ici devant. Et une guerre de gloire dans les cœurs de mes frères et sœurs qui écoutent. Parce qu'il y a d'autres choses qui nous intéressent et qui veulent prendre la place. Il y a d'autres choses qui, moi, me préoccupent et qui veulent prendre la place. Et ma supplication, Père, c'est que toute la gloire revienne à celui qui seul la mérite. C'est-à-dire à toi qui es notre Dieu, que tu sois glorifié dans ce temps, et que toi seul nous enseignes, Père, au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. On m'a demandé de parler sur pourquoi évangéliser. D'habitude, je parle très fort, je saute. Aujourd'hui, je suis un peu fatigué. Et je vous demande pardon pour ça. On m'a demandé de parler sur de pourquoi évangéliser. Ah. Question difficile. Surtout quand on vient se placer devant des gens qui vont évangéliser pendant une semaine. Qu'est-ce que je peux dire en plus? Certainement que vous savez pourquoi il faut évangéliser. Et permettez-moi juste de donner deux ou trois éléments de la Bible qui pourraient être encourageants, qui pourraient vous booster, vous porter pendant ce temps et vous donner de garder les yeux fixés sur le but. Et c'est une question qui peut susciter beaucoup de débats. Pourquoi évangéliser? Pourquoi? C'est une question postmoderne. Pourquoi? On veut savoir qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que je gagne, moi ou les personnes qui m'entourent? Enfin, de toutes les façons, c'est quoi la valeur ajoutée? Concrètement, il y a quoi derrière le fait que je sorte évangéliser? Pourquoi il faut que je le fasse? Et Clément, tout à l'heure ici, tu parlais de la peur qu'il peut y avoir quand on sort évangéliser, de ces personnes que vous allez rencontrer certainement et qui vont vous mépriser. Et ça ne fait plaisir à personne d'être méprisé. De ces personnes qui seront violents et agressifs. Et ça ne fait plaisir à personne d'être agressé. Et de ces personnes-là à qui vous allez vouloir parler gentiment, mais qui n'en auront rien à faire de ce que vous aurez envie de leur dire. Et ça ne fait plaisir à personne, et surtout quand on a un cœur d'évangéliste et qu'on a envie de partager le cœur du message de Dieu avec des gens qu'on sait être perdus et être en train de mourir complètement et totalement. Ah, quand on est évangéliste, on souffre. Je veux te parler de ça et tu n'en as rien à faire. Et je te vois partir. Je sais que là où tu pars, tu es en train de mourir. Et vous allez souffrir de ça. Et donc, pourquoi finalement sortir et aller? Pourquoi aller? Pourquoi se donner cette peine-là? Ah, peut-être que vous travaillez et vous allez prendre toute une semaine. C'est des congés, c'est de l'argent en moins, c'est de l'énergie que vous allez mettre, etc., etc. Mais pourquoi? Pourquoi en tant que chrétien, vous n'êtes pas resté chez vous, les uns dans le nord. Maxime, je te revois, et c'est la deuxième fois que je te vois d'ailleurs. Et les uns dans le nord, les autres, enfin, je sais pas où, mais pourquoi vous n'êtes pas resté chacun à son endroit, vivre sa vie chrétienne de façon cool, peace, tranquille, mais vous êtes venu ici avec l'idée d'atteindre son mort et de répandre l'évangile dans toute la région ici. Je suis un partisan de la prédication textuelle, c'est-à-dire j'aime qu'on prenne un texte et on le regarde et on cherche tout ce que Dieu veut nous dire dans ce texte-là. Mais ce soir, je n'ai pas vraiment l'intention de faire une prédication. J'aimerais juste qu'on regarde ensemble deux ou trois points sur deux ou trois versets. On va essayer de toucher la Bible un peu, mais dans ma tête, il y a une idée phare que j'aimerais qu'on garde, qui moi m'est restée dans la tête toute la journée en tout cas, et j'aimerais qu'on garde cette idée-là qui va nous conduire un peu, et on va essayer de toucher deux ou trois ou quatre ou toute la Bible même en quelques minutes. Ouais, c'est pourquoi évangéliser, c'est une grande question et comme je disais, elle peut susciter beaucoup de débats. Et quand on est en France, surtout en France ici, si vous rencontrez, quand vous sortirez demain, vous allez rencontrer des apôtres de la laïcité et ils vous diront que non, vous n'avez pas le droit d'évangéliser parce que c'est du prosélytisme. Là, ça peut susciter un débat encore, une discussion. Pourquoi pourquoi évangéliser finalement, si ça va susciter des discussions. Et même parmi certains groupes religieux, j'ai envie de penser à, et je vais même les nommer, mes amis, les Mormons et les témoins de Jéhovah. Est-ce qu'il faut, de temps en temps, enfin, dans leur logique, c'est évangéliser pour remplir un, pour cocher des cases. Enfin, je pense que vous comprenez ce que je veux dire par cocher des cases. C'est, les Mormons, ils ont cette obligation-là de sortir, de partir pendant 2 ans, 2 années financées par eux-mêmes, de partir pour prêcher, pour parler de Joseph Smith et pas de Jésus-Christ. Et les témoins de Jéhovah, c'est pareil, ils ont un agenda, un carnet où, oui, je comptabilise et je note toutes les heures. Dès que je sors 1 heure, je rentre et je note, parce que tout ça est comptabilisé. Ça peut aussi susciter un débat. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut évangéliser finalement? Et même parmi certains groupes chrétiens, les autres, je les ai nommés de religieux, c'est pas méprisant, mais c'est juste que j'ai du mal à les voir comme étant chrétiens selon la doctrine du Christ. Mais je veux parler de certains autres groupes de chrétiens qui se réclament d'un calvinisme un peu qui me déplaît personnellement, estiment que non, il n'y a pas besoin d'évangéliser parce que Dieu a déjà choisi et que de toutes les façons, les personnes qui sont choisies seront sauvées. Et là encore, ça peut susciter des débats et des discussions, et des discussions dans lesquelles je peux être très, très incisif. Mais je suppose que si vous êtes là ce soir, c'est que la question ne se pose pas en fait. Pour vous, c'est pas pourquoi ils vont, vous savez pourquoi vous êtes là. Vous savez pourquoi vous êtes venu ici ce soir. Et si l'évangile, Evangelo, la bonne nouvelle, et ça concerne la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Quelqu'un m'a dit une fois, quand tu veux faire quelque chose, essaie de réfléchir, pense un peu. Est-ce que ce que tu veux faire, aujourd'hui, je suis en formation pour implanter une église à Villeparisis, enfin, ça se précise un peu plus. Et donc, si vous pensez à moi et que vous pensez à Villeparisis, priez pour ça, priez pour moi, je vous en prie. Et quand je pense à ce projet-là et que je réfléchis avec les mentors et les personnes avec qui on travaille là-dessus, on se demande, est-ce qu'il y a des modèles? Je veux faire ça, mais est-ce qu'il y a un modèle dans la Bible? Quelqu'un m'a dit, si tu veux faire quelque chose, regarde, cherche dans la Bible. Si tu trouves la même chose qui a été faite, ne réfléchis pas, refais exactement ça. Et tu es sûr que, parce que c'est parole de Dieu, parce que c'est vision de Dieu, ça marchera à coup sûr. Et donc, quand j'ai réfléchi à pourquoi évangéliser, je me suis dit, est-ce que dans la Bible, on évangélise? Est-ce que dans la Bible, on parle d'évangélisation? Et si on en parle, est-ce que vous êtes d'accord qu'on en parle dans la Bible d'évangélisation? Et si on en parle dans la Bible d'évangélisation, c'est qui le premier évangéliste? Si vous avez des Bibles, je vous en prie, regardez avec moi dans Genèse chapitre 3. On va voir, j'annonce tout de suite ce qu'on va voir là-dedans, ce que je veux qu'on voie là-dedans, et ensuite, et pourquoi on va le voir. On va voir qui évangélise le premier, quelle est sa démarche, et pourquoi il évangélise. Et moi, ce que je voudrais, c'est que, ce que je souhaite, ce que j'aimerais prier, je vais prier pour vous pendant la semaine, ce serait que vous essayiez de garder en tête qui est le premier évangéliste? Quelle est sa démarche? Et pourquoi il évangélise? Je pense pas qu'il soit important de lire tout le chapitre 3. Mais je vous propose qu'on commence à lire à partir du verset 9, si vous voulez bien. On connaît l'histoire, Dieu qui crée l'homme. à son image, pour porter sa gloire sur la terre, dans le monde, pour que tout ce qui respire regarde l'homme, et en regardant l'homme, voit la gloire de Dieu. C'est ça l'idée quand il crée. Il veut que tout ce qui respire voie que Dieu est glorieux. En qui? En l'homme. En regardant l'homme, voit la gloire de Dieu. C'était ça son idée. Et quand il crée l'homme, il le met dans le jardin d'Éden et il lui dit, il lui donne généreusement tout. Et il lui dit, par contre, sois obéissant vis-à-vis de moi par cet arbre-là. Ne mange pas, n'y pense même pas. Je te donne tout, mais je te dis juste ça. N'y pense même pas, c'est pas... Mais finalement, on sait que Satan viendra séduire l'homme, je parle homme et femme. Finalement, ils vont pécher et Dieu arrive au verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit... Ouais, d'accord. Je pensais que c'était une autre version, je n'avais pas regardé le texte avant. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Dans d'autres versions, c'est Adam, où es-tu? Il appelle l'homme qu'il a créé avec l'intention de porter sa gloire. Il appelle et lui dit, où es-tu? Avant d'avancer, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que Dieu savait que Adam avait péché? Très certainement. Est-ce que Dieu savait où était Adam? Non, à plus forte raison. Mais il appelle Adam, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Par le même souffle, Dieu continue la punition et la sentence, etc. Et c'est pas trop ce qui suit qui moi m'intéresse. Je voudrais qu'on garde bien le fil. Dieu crée l'homme parce qu'il veut manifester sa gloire. Vous savez, il y a une phrase. Je prêchais ce matin à Shell, mais c'est bizarre parce que même quand j'y allais. Dans ma tête, j'avais cette phrase, l'évangélisation, finalement une affaire de gloire. Finalement une affaire de gloire. Et ça, c'est resté là fortement dans mon cœur. Dieu crée l'homme pour que l'homme porte sa gloire et manifeste sa gloire sur toute la terre. L'homme pêche contre Dieu et on sait que l'évangile, c'est la bonne nouvelle qui concerne Jésus-Christ, le bien-aimé de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient. Regardons, j'ai dit qu'on regarderait deux choses, la démarche et la motivation de Dieu. Premièrement, regardons la démarche. L'homme a peur et il est malheureux et il est perdu. Qu'est-ce qu'il fait? Il se cache. L'homme a peur, il est malheureux, il est perdu. Tout en lui, dès qu'il a péché, tout en lui s'oppose à Dieu et va résister à Dieu de toutes les façons. Et d'ailleurs, quand Dieu lui dit « tu as péché », il dit « bah non, j'ai pas péché ». Enfin, attends, voyons donc. Il va s'opposer à Dieu de toutes les façons. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Et c'est une première démarche de l'évangéliste encore. Qu'est-ce que Dieu fait? Il prend l'initiative. Il sort. Je vous regarde avec beaucoup de respect. C'est que l'Église comprenne qu'on doit sortir pour aller chercher dehors. C'est ça ce que Dieu fait. Et Dieu prend l'initiative. Et c'est exactement dans les versets que Clément a affiché tout à l'heure, c'est exactement ce que Jésus dira à la fin quand il partira. Il va dire « Allez ». Il ne dira pas « Attendez qu'ils viennent ». Il ne dira pas « Organiser des choses à l'église pour qu'ils viennent ». Non, « Allez les chercher ». Et c'est ça que Dieu a fait. Il est parti chercher Adam. Il savait qu'Adam avait péché. Il savait qu'Adam était en train de mourir. Il savait qu'Adam avait peur et froid et honteux, et il est allé le chercher. Tout à l'heure, on va reparler de ça. Regardons déjà la démarche de Dieu et après on va voir comment ça se prolonge dans les évangiles. Une deuxième chose encore dans la démarche de Dieu, Dieu montre à l'homme son péché. Quand on parle d'évangile, d'évangélisation, ça parle de bonnes nouvelles. Et oui, quand on dit bonne nouvelle, il y a une mauvaise nouvelle. Donc Dieu commence à parler à l'homme de son péché. Il lui dit, hey mec, qui t'a appris que tu étais nu? Enfin, c'est-à-dire, il y a un problème là. Mais c'est quoi la réaction de l'homme? Ben non, enfin, c'est pas moi, c'est elle. Mais souvenez-vous un peu de ce qui s'était passé avant lorsque Dieu a ramené, quand il y a eu le premier mariage de l'histoire et que Dieu a ramené Ève et que Adam est devenu poète. Voilà cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et quand Dieu revient pour les retrouver ensemble, ah, il dit ouais, non, c'est elle. Et il accuse non seulement sa femme, mais Dieu aussi. C'est la femme que tu, toi, si tu ne l'avais pas mise auprès de moi, certainement ce ne serait pas arrivé. Et c'est la troisième édition de, enfin la troisième semaine, je peux dire comme ça, merci. C'est la troisième fois que cette semaine est organisée et vous allez rencontrer peut-être même les mêmes personnes. Tout à l'heure j'entendais, je pense que c'est Laurent qui disait, je veux voir les fruits. Oui. Mais peut-être que tu vas rencontrer les mêmes personnes et tu pointeras leur besoin désespéré de Jésus et ils te diront clairement encore, j'en ai pas besoin. C'est ce que l'homme fait ici. Dieu lui dit, tu as péché. Il dit, non, j'ai pas péché. Il résiste parce que tout en lui, parce que tout dans les hommes nous oppose à Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu fait, malgré que l'homme refuse de reconnaître son péché, homme et femme? Il va leur annoncer l'évangile. Il va leur annoncer la bonne nouvelle qui concerne Jésus-Christ. Je vais pas rentrer en profondeur sur ce verset que je pense que vous connaissez bien entendu encore. Et il lui dit, au verset 14, ouais. Non, au verset 15. Ah, je te remercie, Eliane. C'est le verset 15, merci. Il lui dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il est question d'ici de l'évangile déjà, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il est question ici de la postérité de la femme, le Christ, qui viendra écraser la tête de Satan, finalement. Il est question ici de Dieu qui est en train de dire à l'homme, tu as péché. Et l'homme dit, non, je n'ai pas péché. Mais Dieu lui dit, de toutes les façons, voici la bonne nouvelle. Et c'est ça la démarche de Dieu. Dieu qui prend l'initiative. Et ensuite, Dieu qui face à l'opposition de l'homme qui est dû au péché, Dieu qui présente l'évangile, la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, regardons le motif. Pourquoi Dieu revient vers l'homme? Est-ce que vous avez déjà eu un conflit avec quelqu'un? Généralement, qu'est-ce qui se passe? Je prends ma route et tu prends la tienne. Mais Dieu ne va pas prendre. L'homme a pris sa route. Il a péché et il y a eu le conflit et il a pris sa route. Et sa route, c'était derrière l'arbre. Il est allé se cacher. Mais Dieu, non. Dieu n'a pas pris sa route en sens inverse. Dieu a pris sa route en direction de l'homme, tel qu'on l'a vu tout à l'heure. Mais pourquoi? Pensons à pourquoi Dieu a créé l'homme. Au-dessus de tout, on va sortir prêcher l'évangile. Oui, c'est pour que les hommes soient sauvés. Mais c'est d'abord pour la gloire de Dieu. C'est d'abord pour que Dieu soit glorifié. Et Dieu a décidé d'être glorifié par son Église, c'est-à-dire des hommes qui sont sauvés. Éphésiens, tout le livre d'Éphésiens est rempli de tout ça. Les hommes qui sont sauvés et qui abondent dans l'Église. Et Dieu dit que c'est par que les puissances et les autorités célestes connaîtront aujourd'hui et dans l'éternité, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, la gloire de Dieu. Tout connaîtra. Il est premièrement question de la gloire de Dieu. Dieu revient chercher l'homme. En l'homme, il y a sa gloire. Satan ne volera pas la gloire de Dieu. La Bible nous dit aussi que le Christ a glorifié Dieu de la plus grande des façons, de la façon la plus éloquente qui soit, lorsqu'il est sur la croix. Et lorsque ce Christ-là, lorsque les hommes viennent se mettre sous l'autorité du Christ, le Christ est glorifié et Dieu est glorifié. Dieu vient, il annonce à l'homme que le Christ viendra. Et c'est comme ça que Dieu, lui, sera glorifié. L'homme incapable de glorifier Dieu pleinement. Dieu ne manquera pas. Et quand on parle de gloire de Dieu, c'est pas quand une personne se convertit que Dieu devient glorieux. Non, il est déjà glorieux. On n'ajoute rien à sa gloire. Rien. Il est déjà glorieux. Pourquoi évangéliser finalement ? Parce qu'on est face à quelque chose qui est beaucoup plus grand. Il s'agit de la gloire de Dieu. Pourquoi évangéliser? Jésus-Christ est venu sur la terre. Oui, il a glorifié Dieu à la croix. Mais il avait en tête quelque chose, un plan. Et il s'est dit, parce qu'une fois de plus, Dieu crée l'homme pour que toute la terre, il dit quoi à l'homme? Allez, multipliez-vous, remplissez la terre. Il n'est pas question de remplir la terre. C'est l'idée, il me semble, n'est pas de remplir la terre. C'est pas de remplir la terre avec autre chose. C'est de remplir la terre de la gloire de Dieu. Regardez les hommes qui se retrouvent à Babel et qui veulent rester là. Qui dit, on est bien là. Et c'est là, comme ça, qu'on reste. C'est ici qu'on va rester. On sera entre nous et on va s'élever comme ça. Dieu dit, allez comme ça. Et eux, ils veulent s'élever comme ça. Mais Dieu dit, non, toute la terre sera remplie. Remplissez-la toute entière. Et on peut penser aussi en ce qui se passe dans le livre des Actes. Lorsque Dieu avait dit, allez, et annoncer l'évangile à toutes les nations. Les disciples qui restent à Jérusalem, ils disent que l'évangile sera connu à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ils sont restés là. Mais Dieu a dit non, à tous les prix, et même au prix de la vie d'Étienne. Dieu va être glorifié. Pourquoi évangéliser? Parce qu'il s'agit d'une affaire de gloire. Gloire de Dieu. Jésus, donc, qui arrive, qui glorifie le Père, et qui dit que je bâtirai mon Église. L'église qui va le glorifier pour que le Père soit glorifié, je la bâtirai. Et rien ne s'y opposera, même pas les portes du séjour des morts. Rien. Et il va aller plus loin encore. Il va dire que toute la, il est à l'effet de toutes les nations des disciples. Mais c'est assez impressionnant quand même, parce que Jésus arrive et il dit ça. Mais bon, il était où Jésus? En Palestine. Et il n'est resté que 33 ans en Palestine. Mais l'idée, c'est que toute la terre soit, c'est-à-dire le plan que Dieu avait dès le départ, ne bougera pas d'un seul centimètre, d'un seul millimètre. Le plan que Dieu s'est fixé d'être glorifié sur toute la terre, ça s'accomplira. Et Jésus dit que allez prêcher ce beau message-là que Dieu a prêché à Adam déjà. Allez le prêcher partout sur toute la terre. Waouh! Pourtant, lui, il n'est resté qu'en Palestine. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 12 bonhommes. Il a bouleversé leur vie. Il a pris 12 hommes, pas les plus intelligents, pas les plus posés. C'était des pêcheurs qui tiraient le poisson. Dans acte 4, il me semble, 4 ou 5, on dit qu'ils étaient sans instruction. Ils n'avaient rien. Enfin, intellectuellement, je pense que quand je regarde ceux qui sont là, je pense qu'il y a, vous avez certainement beaucoup plus de matière grise que les personnes qui avaient été recrutées. Mais il les a bouleversés par quelque chose. L'évangile. Ce message-là qui... Ouais. Il a dit qu'il leur a enseigné ça en juste quelques années, 3 ans et demi, selon les historiens. Mais ça a révolutionné tout. Ils sont partis. Ils sont d'abord restés à Jérusalem et quand Dieu a explosé la salière, ils sont partis par tout le monde. Et 300 ans plus tard, Rome, qui avait crucifié le Christ, était chrétien. Et moi, je suis né au Cameroun, grandi au Cameroun. J'ai connu l'évangile au Cameroun. Mais comment l'évangile est parti pour me retrouver au Cameroun? Parce que des gens ont prêché l'évangile. Encore et encore et encore et encore. Et Dieu, la gloire de Dieu qui se répand partout. Une histoire de gloire. Une histoire de gloire. Maintenant, je m'étais dit que je ne rentrerais pas dans ce que c'est que l'évangile et l'évangélisation. Je pense que vous le connaissez et peut-être qu'il y a d'autres formations qui en diront un peu plus. Mais j'ai envie de vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un Australien. Parce que là, je viens de parler des disciples de Jésus qui sont partis prêcher, répandre la gloire de Dieu, dire comment le Christ a glorifié Dieu. Là, c'est un chrétien, un avocat qui est, il est australien et il est chrétien. C'est une histoire vraie en plus. Pendant midi, il marche et je pense qu'il, enfin, tel qu'on me l'a raconté, je suppose qu'il allait manger et il y a quelqu'un qui l'aborde et qui vient lui prêcher l'évangile, qui dit j'ai envie de te parler de Jésus-Christ. Il dit oh oui, enfin, je veux bien, vas-y. Et quand la personne en face commence à lui parler de Jésus, il dit « Oui, Jésus, c'est un homme, il est venu sur la terre. » Je demande pardon. « Et il est mort à la croix pour tes péchés. Et voilà, si tu te répands, tu seras sauvé. » Il dit « Oh, wow, intéressant, cool. C'est bien. » Il dit « Oh, tiens, je vois une bague sur ton doigt. T'es marié ?» Et l'évangéliste qui répond « Oui, 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 je suis marié. » Et il dit « Ah, tu peux me parler de ta femme un peu, s'il te plaît ?» Et le gars, son visage s'illumine. On dirait un homme en transe. Et il parle de sa femme encore et encore. Il rentre dans tous les détails. Il parle encore et encore. On sent qu'il est passionné par elle, par cette femme-là. Il raconte. Et il a fallu que l'avocat lui dise, ouais, c'est bon, j'ai compris. Ah, mon frère, je te remercie. Permettez. Et il raconte, et l'avocat lui dit, ok, c'est bon, c'est là, maintenant, j'ai compris. Il lui dit, et maintenant, est-ce que tu peux me parler de Christ, s'il te plaît? Est-ce que tu peux me parler de Christ maintenant, s'il te plaît? Il parle de choses intellectuelles. Il parle de choses mécaniques. Il parle des choses qu'il a entendues. Il parle des choses qu'il... Mais quand il faut parler de sa femme, c'est avec passion. Pas que ce soit mal de parler de sa femme avec passion, hein, Clément? Mais ici, cet avocat, et là, cet évangéliste, il est tombé, il a commencé à pleurer. C'est une affaire de gloire. C'est une affaire de gloire. Le Christ qui doit être glorifié partout. Mais pourquoi prêcher l'évangile encore? Regardez avec moi, s'il vous plaît, Romains chapitre 10. Clément a touché exactement. Romains chapitre 10. Je lis à partir des versets... Je lis à partir des versets 13. « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Comment donc invoqueront-ils le nom de celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des personnes qui prêchent, des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Romains 10, verset 13 jusqu'à 15. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Mais comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Comment les gens de ce mort croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment les gens de ce mort entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a pas des semaines comme ça, s'il n'y a pas vous, mes frères et mes sœurs, comment ils entendront parler de l'Évangile? Comment ils croiront? Ici, Paul parle, il parle de personnes précises, il parle des Juifs, et c'est des personnes qui ont une sensibilité à la divinité. Et je pense que ce mort est très catholique, il me semble. Oui, non? Ouais. Donc il y a des personnes qui sont sensibles à la divinité, mais comment connaîtront-ils le message du salut, l'évangile qui sauve, qui libère, s'il n'y a personne qui prêche ça? Pourquoi évangéliser? Parce que si on ne sort pas, ils n'entendront pas ce message-là. J'ai déjà raconté l'histoire de ma conversion une ou deux fois ici. Et oui, je suis un homme gracié, moi aussi, comme vous certainement. Et après un passé sombre, dur et vraiment obscur, et quand Dieu m'a fait grâce de connaître ce beau message de l'Évangile, quelques semaines après, je suis allé dans un groupe je regardais ça et ça, en même temps, j'étais passionné et emporté, embrasé par ça, mais en même temps, je n'y comprenais rien du tout, comme aujourd'hui un peu. Mais j'avais envie de connaître. Et quand on me disait qu'il y avait des chrétiens qui se retrouvaient à tel endroit, je voulais juste y aller. Et donc, il y avait un groupe de chrétiens, de jeunes chrétiens, qui me connaissaient d'ailleurs, qui savaient... Bon, beaucoup de personnes me connaissaient, ils savaient tout ce que je faisais de mal. Et ils me connaissaient, ils avaient un peu peur de moi souvent. Bon. Mais ils avaient entendu quand même que j'étais devenu chrétien. Oui, que je disais être devenu chrétien en tout cas. Parce que pour beaucoup de personnes, c'était pas sûr. C'était encore un coup que j'étais en train de faire. Et là, je suis allé les voir. J'ai demandé si je pouvais être resté. Ils m'ont accueilli et ils m'ont embrassé et j'étais très content d'être avec eux. Ils m'ont installé. J'étais assis, je regardais. J'étais perdu. Je regardais ça et je me disais, mais purée, comment j'ai pu passer à côté de ça pendant tout ce temps? Mais là, il y avait une question dans mon cœur. Et j'avais envie de leur poser. Je les regardais et je me disais, mais pourquoi personne de vous ne m'avait parlé de ça avant? Et je pensais à toutes ces fois où j'ai frôlé la mort, à toutes ces fois où mes potes sont morts quand on est allé voler. Et je me disais, mais comment j'ai pu passer? J'aurais pu mourir et être perdu éternellement. Mais vous ne m'aviez pas... Ok, j'étais méchant et violent. Et oui, il y avait certainement la peur que je vous frappe, etc. Mais... La puissance de ce message-là mérite d'être annoncée comme les apôtres l'ont fait. Je ne me positionne pas ici en donneur de leçons. Je me mets au même rang et je pense qu'on doit tous penser à annoncer ce message. C'est un message éternel, un salut éternel qui mérite d'être prêché éternellement avec force, puissance, quoi que ça coûte. Et je regardais, je me disais, mais pourquoi personne ne m'avait parlé de ça avant? Comment j'aurais pu l'entendre si personne ne me prêche? Mais comment y aura-t-il des personnes qui prêchent s'ils ne sont pas envoyés, s'ils ne sortent pas? Et il y a une dimension d'urgence. Il y a l'urgence. Je vais vous lire ce que j'avais récupéré sur le mur d'un frère il y a cela des mois. Je l'avais lu. Je suis parti au boulot, limite en pleurs. Est-ce que vous avez déjà lu La vigne et le treillis? Non. Ouais. Il dit, je l'ai récupéré sur le mur Facebook de Thierry Hirschi, si vous connaissez, c'est le pasteur de l'église de Clé-Souilly. Pen Jillette est partenaire de l'un des duos les plus célèbres du monde. Et Pen, c'est Pen et Taylor. Et il professe ouvertement un athéisme totalement assumé. C'est-à-dire cet homme-là, il est très célèbre et il déclare clairement qu'il est athée et il l'assume. Après avoir été évangélisé par un homme très poli il évoque cette rencontre. J'ai toujours dit que je n'avais pas de respect pour les gens qui ne font pas de prosélytisme. Il est athée et il assume. Il dit, j'ai toujours dit que je n'avais pas de respect pour les gens qui ne font pas de prosélytisme. Aucun respect. Si tu crois vraiment qu'il y a un ciel et un enfer, si tu crois que les gens pourraient aller en enfer, ne pas atteindre la vie éternelle, peu importe ta conviction. Et si tu te dis qu'il ne vaut pas tellement la peine d'en parler pour la seule raison que sur le plan social, cela te ferait passer pour un cinglé, à quel point devrais-tu détester quelqu'un pour ne pas faire de prosélytisme à son endroit? À quel point devrait-on détester nos chers amis et frères de Saint-Maur pour ne pas faire du prosélytisme? C'est ce qu'il est en train de dire. Mais moi, j'ai envie de dire, pour ne pas leur prêcher l'évangile, pour ne pas leur apporter la bonne nouvelle. À quel point devrais-tu détester quelqu'un pour croire que la vie éternelle est possible sans même lui en toucher un mot? C'est chaud. Je veux dire que si je... Là, c'est lui maintenant qui parle. Il dit, je veux dire que si je savais, sans l'ombre d'un doute, qu'un camion allait t'écraser et que toi, tu ne me croyais pas, et que ce camion fonçait sur toi, on finirait par franchir le cap au-delà duquel je te prendrais par le col. Et en plus, on parlera ici de quelque chose de bien plus important. Voilà ce que Nathé dit. Si je suis convaincu que tu vas mourir et tu seras perdu, je te prêcherai tellement l'évangile que j'en arriverai au coup de poing avec toi. Parce que je sais, je suis convaincu que si tu continues sans l'évangile, c'est comme ce camion-là qui est en train d'aller te taper. Et là, je parle de camion, mais qu'est-ce que ça sera que de vivre loin de la gloire de Dieu? Il y a une dimension d'urgence. Pourquoi prêcher l'évangile? Alexandre le Grand, vous connaissez? Et pendant qu'il était en guerre, il a entendu parler d'un des soldats qui s'appelait Alexandre aussi d'ailleurs, et qui, à chaque fois qu'il y avait une bataille, il se mettait en arrière-garde. Vous voyez un peu comment ça se passe les batailles à la Romaine et à l'ancienne. Il se mettait à l'arrière-garde. Et dès qu'on disait « Go !» il tombait, il se met un peu de sang et comme ça on est sûr qu'il est mort et il n'y a personne qui l'eut. Et on a ramené l'histoire à... On a raconté l'histoire à Alexandre le Grand. Il a dit, ok, il était furieux. Et il a appelé, il a fait venir ce gars. Il lui demande, comment tu t'appelles? Alexandre. Là, il a pété un câble. Et il s'est juste retourné, il a regardé. Il dit, soit que tu changes de prénom tout de suite, soit alors que tu vas en guerre tout de suite. Chrétien, soit qu'on fait ce que Dieu fait, soit alors qu'on... est-ce qu'on devrait changer de nom? Je ne sais pas, mais vous voyez ce que j'ai envie de dire. On prêche l'évangile parce que notre Dieu est un évangéliste. Alexandre le Grand était en train de lui dire, si tu oses porter mon nom et tu ne me fais pas gloire et honneur, tu changes de prénom tout de suite. Et nous aussi, en tant que chrétiens, je pense qu'on n'a pas cette même pression-là, non. C'est plutôt un grand honneur de servir l'Éternel. Tout à l'heure, dans Romains 10, là on l'a lu, est-ce qu'on peut regarder Ésaïe chapitre 52, le verset 7? On a parlé des beaux pieds. Lorsqu'on annonce l'évangile, Mais en fait, Paul cite le prophète Ésaïe dans ce qu'il dit au chapitre 22, au verset 7. Et je vais lire. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Il le dit deux fois. Qui publie le salut de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Ça, c'est très important. Ton Dieu règne, la gloire est à lui. C'est une affaire de gloire, encore. Ton Dieu règne. Dieu est là au-dessus et il est là encore. Et publier ça, c'est une bonne nouvelle. Mais pourquoi par la prédication? Pourquoi par l'évangélisation? Déjà parce que de un, si on ne le prêche pas, les gens ne l'entendront pas. 1 Corinthiens chapitre 1, et je terminerai là-dessus. Je lis le verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu de sauver ceux qui croiraient par la folie de la prédication. Il a plu à Dieu de sauver ceux qui croiraient. On ne sera pas sauvé par une autre façon. C'est ça le... C'est... Aïe! Je sais pas qui parlait tout à l'heure de... Si on utilise quelque chose de très grand, Dieu n'est pas glorifié. Enfin, Dieu... Je sais plus exactement quoi. Soit c'était Tatiana, soit c'était Clément. Enfin, c'était une affaire de famille et de couple. Mais c'est ça ici qu'il dit. Dieu a la croix, la prédication de la croix, c'est une folie. Comment croire que celui qui vient sauver le monde meurt à la croix? Enfin, quand même. Enfin, voilà, voyons, il ne faut pas être aussi naïf que ça. Mais la prédication de la croix, c'est le moyen par le... Il a plu à Dieu de sauver ceux qui croiraient par la folie de la prédication. Je lis une fois de plus comment Dieu récupère les choses faibles et on va voir dans quel but il le fait. Déjà, la prédication, c'est une chose faible. Les Juifs, un peu plus haut, les Juifs demandent les miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Ça, c'est des choses élevées, fortes. Et Paul dit, nous prêchons Christ crucifié. Folie pour les Juifs et je vais lire ce qui est écrit. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise celles qui ne sont point pour réduire au néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu, afin que rien, personne ne se glorifie devant Dieu. Paul va dire plus tard que nous portons dans des vases de terre, on porte cette gloire-là. que toute la gloire revienne à Dieu. Et que rien, Paul va dire au chapitre 2 de 1 Corinthiens, je n'ai voulu connaître aucune autre chose à ce que Christ et Christ crucifié. Une affaire de gloire. Dieu prend les choses faibles parce qu'il veut se glorifier encore. Par quoi ? Par la prédication, par l'évangélisation. Je vais terminer, juste un dernier verset. Tout à l'heure, j'avais dit que c'était le dernier, mais quand je dis, avec ce qu'on a regardé, la gloire de Dieu, ça peut être tellement écrasante. Et quand on pense, on se dit, waouh, en fait, quand je vais sortir avec une idée beaucoup plus grande, celle de la gloire de Dieu. Et ça peut écraser, hein. Et se dire, waouh, je suis pas à la hauteur. C'est vrai, vous êtes pas à la hauteur. Moi non plus. Mais c'est bien, c'est vrai que Dieu c'est son plan à lui. C'est son projet à lui. Qui aboutira. Qui aboutira d'une façon ou d'une autre. Il aboutira. Et je vais lire Habacuc, chapitre 2, le verset 14. C'est bon, je lis. Car la terre... Je vais le dire dans une autre version que je connais dans ma tête. Car la terre entière sera... La terre entière, il dit, sera remplie de la connaissance de quoi ? De la gloire de l'Éternel. Comment ? Comme le fond des mers par les eaux qui la recouvrent. Toute la terre sera remplie de la gloire de l'Éternel. Voilà ce que Dieu a promis. C'est ce qu'il a dit. L'évangélisation, une affaire de gloire aussi. Je vais juste prier. Et je veux te remercier, Père, pour ce grand projet que tu as d'être glorifié. Non pas que tu ne sois pas glorieux, Seigneur, mais que de cette même façon que la terre voyait ta gloire dans Adam qui n'avait pas encore péché, tu veux, Seigneur, qu'à la fin, que ta gloire soit remplie, que ta gloire remplisse la terre par des hommes et des femmes qui seront revenus à toi, qui se seront mis sous le gouvernement du Christ, qui glorifieront le Christ pour que toi tu sois glorifié, Père. Merci pour mes frères et mes sœurs qui donnent de leur temps et qui acceptent, Père, de s'engager dans cette mission avec toi. Merci de les bénir et de les renouveler, de les fortifier, Père. Et quand je n'aurai pas réussi à les encourager suffisamment, Seigneur, que toi, Père, que tu sois leur encouragement et leur force, que toi, tu gardes le but dans les cœurs, la gloire de Dieu. Cette évangélisation qui doit être faite à l'extérieur, mais aussi dans chacun de nos cœurs, chaque jour, Seigneur. Et je te prie ça au nom de Jésus, ton Fils, ton bien-aimé. Amen.